qui m'en suis occupé. Nous avions un problème avec Heliofort à partir de 88, à peu près 88, ou plus tard 89. C'était devenu beaucoup plus cher. Je disais tout à l'heure, c'est devenu beaucoup trop cher. Alors je disais tout à l'heure que nous avions pratiquement ruiné Heliofort, d'une façon très simple. Les tirages ont parfois été importants, mais enfin, ils n'ont jamais été colossaux. Et aucun autre éditeur ne pouvait, il y a un contre-exemple que je citerai, mais aucun autre éditeur ne pouvait utiliser le même papier. Donc, il restait à Heliofort les boîtes de chocolat, je ne sais pas si ça a tellement bien marché, et quelques publicitaires qui ont utilisé ça pour des brochures publicitaires, des trucs de ce genre. Mais dans l'édition, on a pratiquement monopolisé le truc. Claude Chou a fait une petite collection mais qui n'a de finance, mais qui n'a que tout à fait accessoirement, il souhaitait me voir diriger, mais je ne savais pas que ça a fait. Claude Chou a donc utilisé ce papier en doré pour une collection de finance qui a eu 3 ou 4 titres et qui a échoué. Donc, avec des consommations assez faibles, de l'ordre de quelques dizaines de milliers de planches par an, on a un peu limité Heliofort. Alors, Heliofort a répondu un jour en augmentant brutalement ses tarifs et on ne pouvait pas suivre. Il y a un inconvénient à ces couvertures, c'est que qu'on fasse 10 000 exemplaires ou qu'on en fasse 150 000, il n'y a pas de coût marginal. Quand on a une illustration en quadricromie et qu'on fait 50 000 ou 100 000 exemplaires, le coût il devient quasiment nul. Là, on achète à l'unité le machin, donc le coût, c'est le coût moyen, est terminé. Donc, on a été, à partir de 88-89, amené à chercher une alternative. Alors, on a continué à fonctionner sur les stocks qu'on avait, en les utilisant vraiment jusqu'à la dernière rame, et on a cherché une nouvelle maquette. Alors, dans un premier temps, le directeur artistique de la Fond de l'époque a imaginé ce que j'appelle la couverture au rayon, qui fait vaguement allusion au rayon fantastique, mais lui ne le savait pas. C'est moi qui le lui ai appris, que j'aime beaucoup d'ailleurs, fait que c'est généralement bleu marine avec un rayon de couleur et quelquefois un petit gimmick discret qu'on peut voir. Mais les commerciaux, ça a duré 7 ou 8 ans au moins, mais les commerciaux n'aimaient pas trop ça. Et il demandait une nouvelle maquette, plus moderne, plus dynamique, éventuellement illustrée, etc. Alors, c'est à ce moment-là que je ne sais plus exactement comment, je suis rentré en contact avec Stark, que je n'ai jamais physiquement rencontré, mais que j'ai eu souvent au téléphone, et qui nous a proposé plusieurs maquettes parfaitement irréalisables, que vous avez vu, dont vous avez vu certains exemples, enfin en tout cas ceux dont je dispose et que j'ai donné à 42, à l'exposition de la bibliothèque. Enfin, la première et la principale idée de Stark, c'était d'avoir une première de couverture sans rien, complètement unie, et tous les textes de l'ISBN à la quatrième, le titre, enfin, etc., renvoyés en quatrième de couverture. C'était évidemment la catastrophe commerciale, chez les libraires et ailleurs assurés. Je me souviens avec émotion d'un long plaidoyer que Stark a fait au téléphone, arrivé à l'amplificateur, toute l'équipe dirigeante et commerciale de la Fond qui écoutait Stark plus ou moins religieusement. Ça n'a abouti à rien. Alors à la suite de quoi, on a décidé de passer à des illustrations faites sur ordinateur, en utilisant d'abord celle d'un Allemand, Zwiewe, qui vivait à Londres, enfin qui vit vraiment toujours. Il avait publié un livre où on a commencé par puiser. Ensuite, il nous en a fait à la demande. Et puis, il a augmenté ses prix de telle sorte qu'il était exclu de suivre. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est Jackie Paternoster qui a fait l'essentiel des couvertures, toujours sur ordinateur.
Bien. Écoutez, voilà, nous allons arrêter là et nous donnons rendez-vous à Girardin dans 40 ans pour fêter les 80 ans de la collection Ailleurs et Demain. Merci.